Bonjour et bienvenue dans le podcast « À la découverte de soi » de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Et si c'était la fin ? Il y a dans la vie très peu de moments aussi joyeux que ceux où il nous est permis d'être témoins d'un miracle dans la vie de quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Voyez-vous, si je crois qu'être bénéficiaire d'un miracle, d'un bienfait de la vie, est une expérience satisfaisante et heureuse, je crois encore davantage, comme l'a dit le Seigneur, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a quelque temps, j'ai été témoin, alors que je regardais une vidéo, d'une scène où une mère a emmené son enfant né sourd chez un ORL, médecin spécialisé des troubles auditifs. Grâce à la science, cet enfant a entendu pour la toute première fois. Je pense que vous avez certainement regardé ce genre de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais si vous n'avez pas vu ce genre de scène, imaginez l'émotion qui remplit la salle. Imaginez la joie qui envahit le cœur de l'enfant et qui finalement se traduit par des larmes. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie. Parce qu'il entend pour la première fois la voix de sa mère, la voix de son père. Sa joie et ses larmes deviennent très vite ceux des parents présents et finalement du téléspectateur ou de l'internaute. Je crois qu'il y a plusieurs choses comme celle-ci que nous considérons comme des acquis parce que nous sommes nés avec, mais qui au final sont tout simplement des miracles. La capacité d'entendre est, à mon sens, un miracle. J'aimerais prendre quelques secondes ici pour permettre à quelqu'un, en ce dernier culte de l'année, de valoriser les grâces que Dieu lui a faites, mais que la plupart des gens prennent souvent pour acquis, quoique n'ayant rien fait pour les mériter. J'aimerais que vous m'aidiez à dire merci à Dieu pour les choses gratuites, mais de valeur que nous possédons. Gratuites, mais hors de prix. Ou parfois juste sans prix. Je parle ici du miracle de la vie, le miracle de la santé, le miracle de la famille, des vrais amis. J'aimerais le miracle de l'Église, de bons leaders. Le mot entendre est défini comme étant premièrement le fait de percevoir grâce à lui. Lui, O-U-I-T-R-E-M-A-E. Cependant, je me suis rendu compte au fil du temps qu'entendre, c'était bien plus que ça. Entendre, c'est écouter, prêter attention. Donc, la plupart d'entre nous ici, nous n'avons pas besoin d'un plan auditif pour entendre les sons qui nous environnent. Mais je crois que nous avons besoin que Dieu fasse un miracle pour que nous puissions entendre les gens qui nous entourent. Plus précisément, pour les écouter et prêter attention à leurs mots et surtout à leur cœur. Pour la plupart d'entre nous, lorsque nous écoutons ceux qui nous parlent, nous n'entendons pas ce qu'ils disent, mais nous entendons ce que nous pensons après qu'il nous ait parlé. J'aimerais que tu n'éteignes pas ton cerveau aujourd'hui. Que tu ne te mettes pas en mode autopilote. Le texte que j'ai lu avec vous tout à l'heure, qui parle de 2 Corinthiens, en fait l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 7, ce texte est à mon sens un de ces exemples, du moins un de ces moments où nous pouvons lire, nous pouvons entendre, mais nous ne prêtons pas attention à ce que nous dit celui qui parle. Écoutez, le texte que j'ai lu avec vous, en réalité, quoique parlant de la relation entre Paul et Dieu, n'a pas été écrit pour Paul ni pour Dieu. Ce texte a été écrit pour que celui qui va entendre la lecture de l'Épître, ou le lecteur que nous sommes, que tu es, puisse te rendre compte qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu entendes. Il existe donc des moments où la relation personnelle avec Dieu est un moyen d'enseignement pour ceux qui sont présents. C'est dans ce genre de cas que Jésus dit « Père, moi je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. » Ça veut dire qu'il y a des moments où quand quelqu'un prie, il ne prie pas parce qu'il veut que Dieu l'entende, mais il prie parce qu'il veut que ceux qui l'écoutent l'entendent. La prière à Dieu peut donc être un enseignement aux hommes. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Parle à ton frère à côté de toi, dis-lui, mon frère, est-ce que tu m'entends? Si c'est une sœur, oui, dis-lui, ma sœur. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu m'entends? S'il ne te répond pas, bouscule-le. Dis-lui, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu m'entends? Que Dieu m'aide. Dans la vie, il nous faut donc des gens qui nous aident à percevoir ce que nous-mêmes, nous ne percevons peut-être jamais. Il nous faut des gens qui jouent le rôle de guide et qui deviennent des implants auditifs dans nos vies. C'est exactement ce que décrit l'histoire de la rencontre entre l'eunuque éthiopien et Philippe. Acte 8, 30 à 31. L'eunuque lit un texte qu'il ne comprend pas. Philippe aborde son char, accoste son char, lui demande « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» L'eunuque éthiopien, peut-être rempli d'une plus grande humilité que la plupart d'entre nous, dit « Comment pourrais-je comprendre si personne ne m'explique ?» Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie que vous pouvez lire sans comprendre. Je vais pousser. Il y a des choses dans la vie que vous pouvez entendre sans comprendre. Il te pousse et je pousse un peu. Il y a des choses que vous pouvez vivre sans comprendre. Ce n'est pas parce que c'est toi qui les vis que tu comprends ce que tu vis. Il faut donc que Dieu fasse un miracle, qu'il associe à ta vie quelqu'un qui, quoique ne vivant pas ce que tu vis, est capable de t'aider à comprendre ce que tu traverses. En acceptant d'être ici ce matin et ceux qui sont connectés, de vous connecter à cette page, je considère que vous avez fait le choix de m'inviter à monter et à m'asseoir avec vous sur dans votre char pour vous permettre d'entendre avec un peu plus de précision ce que Dieu dit aujourd'hui. L'apôtre Paul, en nous racontant cette histoire, met à nu certaines vérités au sujet de la vie que très peu de gens entendent lorsqu'ils écoutent l'histoire de quelqu'un. Écoutez-moi bien, c'est majeur. La première chose que je veux que tu notes, si tu prends des notes, c'est que là où il y a révélation, là il y a souffrance. Je vais redire ça. Là où il y a révélation, là, il y a souffrance. Il me paraît important de nous faire remarquer que nous jugeons facilement les gens sur la base de ce que nous entendons de leur vie au moment où nous les rencontrons. Quand certains d'entre vous n'entendent que la partie révélation d'un homme ou d'une femme, vous vous posez la question, pourquoi lui ? Pourquoi elle ? Par révélation, je parle de gloire. Par révélation, je parle de ce qui fait d'un homme un surhomme, ce qui distingue un être humain de tous les autres êtres humains. Quand tu regardes quelqu'un briller, quand tu vois quelqu'un être élevé, quand tu vois quelqu'un percer, parfois, la question que tu te demandes, c'est pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle est mariée à cet homme et pas moi? Pourquoi il est marié à cette femme et pas moi? Pourquoi il a ce travail et pas moi? Pourquoi elle a cette maison? Pourquoi il a ce ministère? Pourquoi a-t-elle cette renommée et pas moi? C'est sûr qu'il est dans la loge. Sa réussite est suspecte. Que Dieu m'aide. Ne trouvez-vous pas étonnant que les gens trouvent votre succès suspect, votre richesse suspecte, mais qu'ils n'ont jamais trouvé suspect votre pauvreté? D'autres encore n'entendent que notre douleur, notre peine, notre souffrance, et se permettent d'émettre un jugement hâtif en déclarant que nous méritons ce qui nous arrive. Les plus religieux iront jusqu'à dire que nous sommes pécheurs, que notre douleur est en réalité la conséquence de notre impiété. Que si vraiment nous aimions Dieu, si nous le connaissions, ceci ou cela ne nous serait jamais arrivé. Dans notre douleur, ils entendent un reproche. Comme les barbares de l'île de Malte qui s'attendent à voir Paul mourir parce qu'il a été mordu par une vipère. Alors je ne sais pas à qui je vais m'adresser, mais je veux dire à quelqu'un ce matin que tu ne m'as pas vraiment entendu si de ma vie tu ne connais que la gloire. Tu ne m'as pas totalement entendu si tu n'as entendu que mes révélations. Tu ne m'as pas totalement entendu si tu n'as entendu que ma douleur. Je veux dire à quelqu'un ce matin que tu m'auras vraiment entendu quand tu auras été exposé à la fois au discours de ma révélation et à la douleur qu'elle a produit. Oh Dieu, aide-moi. Qu'est-ce que tu es en train de dire, évêque? Je suis en train de dire que quand vous voyez quelqu'un être glorifié, c'est que cette personne a souffert. J'ai découvert, et je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais j'ai découvert que quand vous voyez quelqu'un avec de l'huile, une onction particulière sur sa vie, soit il a payé le prix pour cette huile, soit quelqu'un avant lui a payé le prix. Ce prix est toujours la souffrance. Il faut que vous sachiez que personne n'est glorifié sans croix. Vous ne m'entendez pas. Personne ne connaît la couronne de gloire sans connaître la couronne d'épines. Je vais dans l'autre sens et je vais vous parler rapidement. Ne vous arrêtez pas à la douleur de quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un souffrir, ne prenez pas une photo de sa vie pour en faire toute sa vie. Parce que la personne que vous voyez en prison aujourd'hui, si vous permettez autant de passer, vous vous rendrez compte que le prisonnier d'hier est devenu aujourd'hui le roi. La stérile d'hier est aujourd'hui la femme qui enfante. Les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. En cette fin d'année, je veux dire à quelqu'un: ne prends pas le risque de juger rapidement ton frère ou ta sœur, soit sur la base de sa gloire, soit sur la base de sa souffrance. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui: m'entends-tu maintenant? Ton voisin n'aime pas quand tu lui parles, parle à un autre voisin, dis-lui: est-ce que tu m'entends? Dieu va m'aider, mon père. Rapidement, la souffrance, parce que je veux courir, mais la souffrance... Premièrement, je dis que là où il y a révélation, il y a souffrance. Deuxièmement, la souffrance est une enseignante. La souffrance a toujours, ou je vais dire ça différemment, Votre souffrance doit toujours avoir un objectif. Ne permettez jamais que vous souffriez en vain. Je dis, si tu souffres, que ce ne soit jamais en vain. Oh, menace quelqu'un à côté de toi, s'il te plaît. Je vais rentrer dans mon message bientôt. Dis-lui, si tu souffres. My God, il y a des gens qui ne parlent pas à leurs voisins. Je vais vous jeter le micro. Dis-lui, si tu souffres, ne souffre jamais en vain. Si tu ne manges pas, que ce moment de misère ne soit pas en vain. Si tu dors par terre, que ce moment où tu n'as pas de lit ne soit pas en vain. Si tu n'as pas de travail, que ce moment où tu es au chômage ne soit pas en vain. Si tu es malade dans ton corps, que ces douleurs ne soient pas. Si les gens te critiquent, se moquent de toi, vilipendent ton nom, mentent sur toi, que cette douleur ne soit pas en. La souffrance nous enseigne au moins quatre choses. Premièrement, l'humilité. Deuxièmement, la patience. Troisièmement, l'obéissance. Et finalement, la prière. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Je réitère, la souffrance doit enseigner l'humilité. La souffrance doit enseigner la patience. Vous savez, quand vous souffrez, même si vous vouliez aller vite, vous découvrez qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de votre volonté à aller vite. La souffrance t'enseigne l'humilité parce que tu jugeais rapidement l'autre qui souffre. Et il y a, mon père, des expériences dans la vie qui permettent qu'on change de regard sur la souffrance d'autrui. Quand tu n'as jamais été malade au point de la mort, tu ne comprends pas. Et tu vas dire à quelqu'un, lève-toi, 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 tu fais exprès jusqu'à ce que... Tu n'as jamais connu de problème de couple, tu émets des jugements rapides sur le couple d'autrui jusqu'à ce que... ton couple lui-même batte de l'aile. Et là, tu ravales tes paroles en disant, si je savais. Des gens qui vont dire à des femmes que s'il t'a quitté, s'il n'est pas avec toi, c'est parce que tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Et elle parle du haut de son célibat. Et finalement, quand elle se marie, elle fait ce qu'elle a dit aux autres de faire. Et elle se rend compte que malgré ça, il ne veut plus d'elle. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a une souffrance qui te rend humble. La souffrance t'enseigne l'obéissance. La Bible dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et là, on parle de Christ. Ça veut dire que quoi qu'étant fils, il y a des choses qui ne s'apprennent pas par la filiation, mais qui s'apprennent par la souffrance. J'essaie de dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que tu es le fils de Dieu que tu ne souffriras pas. J'ai même l'impression que c'est le contraire. J'ai l'impression que quand on est fils, Dieu nous fait souffrir pour nous apprendre l'obéissance. J'ai l'impression que Dieu châtie les fils qu'il aime. J'ai l'impression. Finalement, la prière. Et c'est dans la prière que nous nous adressions à Dieu pour dire... Au milieu de ta souffrance, tu pries et ta question c'est, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier, mais de ne pas être entendu par Dieu? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prier, d'avoir le sentiment que le ciel est de marbre? De prier et d'avoir le sentiment que le ciel ne bouge pas? Je ne parle pas des prières nonchalantes, je parle de cette prière que l'apôtre, que la Bible déclare comme étant la prière fervente du juste. Tu as levé le pied, tu as kalamaché, lebradesco palanamaha, tu as tapé des mains, tu as fait des offrandes, mais après toutes ces choses, tu as quand même le sentiment que le ciel ne bouge pas. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Vous êtes bien entouré. Si vous regardez bien autour de vous, vous trouverez les enfants d'Israël qui crient pendant 430 ans, alors qu'ils ne devaient être esclaves que pendant 400 ans. Et mon père, c'est possible de continuer à crier sans savoir que Dieu est descendu ailleurs. Oh Dieu, je vais prendre mon temps ce matin un peu. C'est possible, Clémenceau, de crier ici au Gabon. Et puis d'entendre Dieu qui descend en France. C'est possible de crier et de prier pour que Dieu te libère. Et puis Dieu descend dans la vie d'un homme qui n'a jamais demandé la liberté. Avez-vous déjà eu l'impression que quand vous priez pour les autres, Dieu court? Et quand vous priez pour vous-même, Dieu s'assoit, discute avec les anges, prend le thé, s'endort, se réveille et recommence à vous faire attendre. Je ne sais pas si vous m'entendez ce matin. Je dis, as-tu déjà eu l'impression, comme Marthe et Marie, que Lazare est ton ami Jésus? Lazare est malade, viens! Et vos Bibles disent que Jésus va prendre son temps. Comment vous expliquer qu'un Dieu auquel vous vous adressez prenne son temps? Si vous priez et vous n'avez pas le sentiment d'être entendu, vous êtes certainement à côté de Jésus lui-même qui va dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Si vous priez continuellement pour le même sujet sans réponse, vous êtes certainement aux côtés d'Élie, de Job et de Paul, pour ne citer que cela. Je suis en train d'arriver à la fin de mon introduction bientôt. Bientôt. J'ai besoin que vous m'entendiez ce matin. Au-delà de ce que je vais arriver à dire, ce que je dis est majeur. L'apôtre Paul dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit. Cette phrase peut vouloir dire 2 choses. Premièrement, ce n'est qu'à la 3e fois qu'étant allé vers lui en prière que Dieu a répondu. Ça veut dire que j'ai prié 1 fois, il n'a rien dit. J'ai prié 2 fois, il n'a rien dit. J'ai prié 3 fois et là maintenant il répond. Si c'est le cas, ça veut dire que l'accent serait mis sur le fait que dans la prière, il faut faire preuve de persévérance. Écoutez-moi. Vous devez comprendre que l'exaucement ne dépend pas du nombre de mots que nous prononçons dans la prière. Mais il n'en demeure pas moins qu'il existe des moments où nous devons apprendre à prier non pas 1 fois, non pas 2 fois, non pas 3 fois, mais jusqu'à exaucement. Oh Dieu! Il y a des moments, il y a des sujets où tu ne dois pas lâcher prise tant que tu n'as pas été exaucé. Le problème de plusieurs d'entre nous, c'est que quand ça dure, on arrête de prier. Tu ne dis pas amen parce que je dis la vérité. Tu pries pour un enfant, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, l'enfant ne vient pas à un moment. Tu te dis à quoi ça sert. Tu pries pour le travail, tu pries pour un déblocage, tu pries pour une guérison. Mais depuis que tu pries, rien ne vient. Et tu te dis, si vraiment Dieu voulait m'exaucer, il m'aurait exaucé depuis la première fois où j'ai prié. Le diable est un menteur. Élie prie. Il sait qu'il va être exaucé. Ce n'est qu'une question de temps. mais il est conscient que tant que le temps n'est pas venu, il doit continuer de prier. C'est une parole pour quelqu'un ce matin. Tant que tu n'as pas vu l'exaucement, ne lâche pas. Dis ça à ton voisin, dis-lui, tant que tu n'as pas vu l'exaucement, ne lâche pas. Cherche un autre voisin, j'ai besoin que tu parles à celui qui somnole. Dis-lui, tant que tu n'as pas vu l'exaucement, ne lâche pas. Porte des cieux extra, tant que vous n'avez pas vu l'exaucement, ne lâchez rien. Église centrale, tant que nous n'avons pas vu l'exaucement, on ne lâche pas. Deuxièmement, trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit. La deuxième possibilité, c'est que ce n'est qu'à la troisième fois, pas que Dieu a parlé, mais que je l'ai entendu. Ça veut dire que je prie une fois, Dieu parle, mais je n'entends pas. Je prie une deuxième fois, Dieu parle, mais je n'entends pas. Je prie une troisième fois, Dieu parle, et parce qu'il insiste, maintenant j'entends. Il y a cet exemple biblique qui me vient où Dieu appelle trois fois Samuel, mais Samuel n'entend pas Dieu, Samuel entend Élie. Ce n'est qu'à la quatrième fois que Samuel entend Dieu. Ah, vous allez m'entendre. Ça veut dire que Dieu peut te parler trois fois, mais tu penses que c'est le hasard. Dieu peut te parler trois fois, mais tu penses que c'est ton oncle. Tu penses que c'est simplement la famille. Dieu peut te parler à plusieurs reprises, mais tes émotions étouffent la voix de Dieu. J'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'il y a des recherches médicales qui indiquent qu'il y a un lien entre la condition du cœur et la capacité que les oreilles ont d'entendre ce qui est dit. Écoutez-moi bien. Oh Dieu, je vous ennuie. Vous me regardez bizarrement. J'ai pas encore commencé. J'ai découvert médicalement qu'une perte d'audition peut être un signe précoce d'un problème cardiovasculaire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si votre cœur ne va pas bien, il vous est difficile d'entendre correctement ce qui vous est dit. Voilà pourquoi la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » J'ouvre la parenthèse rapidement pour te dire que quand on te parle et que tu n'entends pas, c'est parce que tu as un problème de cœur. On te fait une remarque, tu entends des accusations. On te parle d'une certaine manière, mais tu n'entends pas ce qu'on te dit, tu entends ce que tu ressens. Je suis en train de vous dire que le problème n'est peut-être pas tes oreilles. Le problème, c'est ton cœur. Et si Dieu ne fait pas un miracle sur ton cœur, tu vivras ta vie en accusant Dieu de ne pas répondre à tes prières parce que tu n'entends pas sa réponse, tu entends tes émotions. Jésus prie trois fois pour le même sujet à Gethsémané. À aucun moment il nous est dit que Dieu va répondre. Vous me suivez? Mais la troisième fois, Jésus comprend que le silence de Dieu est quand même une réponse. Il arrête donc de prier parce qu'il a eu la réponse. Oh Jésus de Nazareth! Je suis en train de te dire que si Dieu est silencieux, c'est qu'il t'a répondu. Mon Dieu, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois pas ma volonté mais la tienne, Dieu ne dit rien. Il repart prier. Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Dieu ne dit rien. La troisième fois, mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Dieu ne dit rien, mais la troisième fois, Jésus comprend que ça ne sert à rien d'insister. Il a déjà répondu. Puis-je vous choquer? Dans sa prière, Jésus prie, mais dans sa prière, Dieu répond. Dans sa prière, il dit, voici ce que je veux. Mais dans sa prière, il dit, ce que je veux doit se soumettre à ce que tu veux. Donc il comprend que le silence de Dieu, c'est Dieu qui valide le fait que la volonté de Jésus doit se soumettre à sa volonté, à lui. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis, parfois Dieu utilise ta bouche pour te répondre. Mais tu ne l'entends pas parce que ça sort de ta bouche. Oh, vous allez m'entendre ce matin. Ça veut dire que tu as prié et pendant que tu priais, tu as dit quelque chose et Dieu se saisit de ce que tu dis pour dire je t'ai répondu. Mais toi tu dis non parce que tu n'as rien entendu d'autre que ce que toi-même tu as dit. Oh Dieu, aide-moi à leur parler ce matin. Je suis en train de vous parler de la fin de l'année 2023. Certains d'entre vous, vous regardez le bilan de cette année et vous dites « Dieu ne m'a pas exaucé, Dieu ne m'a pas répondu et Dieu me dit de te dire c'est faux. » Il t'a répondu, il t'a exaucé, il a dit quelque chose que tu n'as pas entendu parce que tu ne voulais pas l'entendre, tu voulais t'entendre. Tu ne voulais pas qu'il te dise quoi faire, tu voulais lui dire comment il devait faire ce qu'il devait faire dans ta vie. Oh Dieu, regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, est-ce que tu entends Dieu maintenant? Oh. Oh, Jésus. Dieu et Pierre ont une discussion, alors que Pierre est sur une chambre élevée, il est dans la chambre haute, il a faim. Il rentre en extase, il voit une nappe descendre. La nappe descend avec une voix. Tue et mange. À trois reprises. Premièrement, la première fois que la voix dit tue et mange, Pierre répond non Seigneur. Car jamais rien d'impur n'est rentré dans ma bouche. La vision se répète. Est-ce que la nappe reste ou est-ce que la nappe redescend à nouveau? Mais la Bible dit que trois fois. Tue et mange, non Seigneur. Tue et mange, non Seigneur. Tue et mange, non Seigneur. Dieu ne parle plus. Ce que je suis en train de dire, fais, non, fais, non, fais, non. La discussion devrait s'arrêter avec fait, oui. Mais Dieu se rend compte que même s'il répète 10 fois la même chose, tu ne changeras pas d'avis. Donc Dieu ne parle plus. Ça veut dire qu'il y a des moments où Dieu est vraiment silencieux parce qu'il est conscient, oh je t'ai entendu, parce qu'il est conscient que tu lui résistes. Je comprends différemment ce texte. On va le mettre. Jacques 4, 6. Je veux vous montrer quelque chose de fort. Ah, mon Dieu. Laskin ti pradi ale. On va rentrer, mon fils, on va prier. Jikandi paligade. Tu sais satisfaire. Lisons ensemble 1, 2, 3. On va reprendre. 1, 2, 3. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. » Je comprends différemment ce texte. Parce que voyez-vous, je comprends que la grâce de Dieu est beaucoup plus grande que tout. Et que la résistance de Dieu n'est pas juste une pré-manifestation de sa grâce. Je comprends que la grâce de Dieu ne commence pas au moment où Dieu fait grâce. Je comprends que quand Dieu résiste à un orgueilleux, c'est la grâce. Oh Dieu, la grâce excellente, mon Père, est donc le fait qu'il résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Vous ne m'entendez pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Paul dit « trois fois j'ai prié et tu m'as dit ma grâce te suffit », ta grâce en réalité ne commence pas quand je prie. Oh, les palikanti predalo sopa. La grâce précède la prière. Oh, salikande balé sapaha. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit, est rendue parfaite, est rendue complète. Prends tout son sens dans la faiblesse. Suis-moi attentivement, s'il te plaît. Ça veut dire que toi qui évalues la grâce de Dieu dans ta vie, par le fait que tu ne tombes pas. Oui, c'est la grâce. Mais la grâce est aussi manifeste quand tu tombes et qu'elle t'empêche d'aller plus bas que terre. La grâce met une limite à ta chute. La grâce te permet quand tu... Oh, laissons ton para. Tu as la grâce parce que tu évalues la grâce par l'argent. Mais quand tu n'as pas l'argent, la grâce te permet de tenir malgré l'absence de l'argent. Tu as la grâce, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc celui qui est marié regarde à sa femme et dit « j'ai la grâce ». Mais je dis que celui qui est célibataire doit regarder à lui-même et dit « c'est la grâce de Dieu qui me permet de vivre mon célibat ». Vous ne m'entendez pas? Je suis en train de te dire que la grâce ne se manifeste donc pas au moment où toi tu la découvres. La grâce est présente dans tout ce que tu fais. De Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Et la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Il dit « J'ai travaillé plus que tous. » Non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je suis en train de te dire que la grâce de Dieu, c'est ce qui te permet de travailler. La grâce de Dieu, oh les sapas, tu es rentré ce soir-là, tu n'avais rien à manger. Tu t'es allongé, tu as dormi, tu t'es réveillé. Tu dois dire merci Seigneur pour la grâce. Parce que la grâce n'est pas la nourriture que tu n'as pas mangée. La grâce est le fait que tu aies réussi à trouver le sommeil, le ventre vide. Oh Dieu vivant d'Israël. La grâce de Dieu me permet de chanter et les gens m'acclament. Mais la grâce de Dieu permet que quand l'orgueil commence à prendre mon cœur et que je commence à dire de toutes les façons, avec ou sans préparation, le culte va bien aller, il se peut que ce jour-là, d'une manière bizarre, les notes ne soient pas justes. Je détonne. Au moment où je détonne, quelqu'un va dire « Dieu l'a lâché ». Non, 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 non. Dieu ne l'a pas lâché, Dieu l'a serré. Ah, c'est parce que Dieu ne veut pas que l'orgueil attrape son cœur, que Dieu la serre. Pour que finalement, elle puisse recommencer à devenir un. Vous ne m'entendez pas ce matin. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis, tu regardes à 2023 et tu étais en train d'évaluer la grâce de Dieu par le travail, par la voiture, par la maison, par les voyages, par le mariage. Et puis quelqu'un finissait cette année en disant, Seigneur, tu m'as trahi, tu m'as trompé, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Mais Dieu m'envoie te dire, regarde encore bien, parce que tu n'as pas voyagé, mais tes pieds ont continué à fonctionner. Oh, vous ne m'entendez pas ce matin. Tu n'as pas trouvé de travail, mais sans travail, tu as pu payer des factures. Les gens évaluent la grâce de Dieu en se disant, si Dieu est vraiment avec moi, je ne tomberai pas malade. Mais j'ai envie de te dire, c'est parce que Dieu était avec toi que tu es tombé sur un bon médecin. Je vais rentrer dans mon message sous peu. La femme à la perte de sang, mon père. Quand elle rencontre Jésus, les gens ne se rendent pas compte, mon père, c'est flagrant, c'est flagrant. Vous les femmes qui avez perdu du sang ou qui perdez du sang régulièrement, Vous savez que normalement, c'est supposé durer entre 3 et 7 jours. Quand je dis aux gens que je connais, c'est supposé durer entre 3 et 7 jours. Et ça devient inquiétant quand ça dure 12 jours, 14 jours, 21 jours. Et à un moment, une femme comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son corps si elle continue à saigner. Et j'ai rencontré une femme ici, quelques années, qui saignait régulièrement. Saignait régulièrement, tous les jours, pendant des années. Pendant qu'elle est en train de se plaindre de ses saignements, je rencontre une autre femme qui se plaint de ne pas saigner. Parce que la femme, parce que les deux, mon père, finalement, sont dans le même problème. Aucune des deux ne peut avoir un enfant. Médicalement, il faut à un moment qu'il y ait ovulation et que parce qu'il n'y a pas eu fécondation, l'ovule soit expulsé. J'étais à l'école. Et que l'ovule soit expulsé. Mais quand tu saignes et que tu saignes et que tu saignes, tu comprends que si les saignements ne s'arrêtent pas, c'est qu'il n'y a pas cette période d'ovulation qui survient après les règles. Après, c'est quoi? Ménorrhée? Ah, c'est ça, c'est l'aménorrhée. Et aménorrhée, c'est l'absence de règles. Et c'est ça. Et donc, finalement, cette femme saigne pendant 12 ans. Révérende Samira, 12 ans de saignement. Vos Bibles disent qu'elle est allée de médecin en médecin et elle s'est appauvrie. Mais écoutez-moi bien, elle s'est appauvrie et elle rencontre Jésus et elle le touche. Et un toucher de Jésus l'a guérie. Et vous me dites, moi-même je l'ai dit, si elle avait rencontré Jésus plus tôt, elle n'aurait pas perdu son argent. Mais peut-être je me trompe. Parce que si elle avait rencontré Jésus plus tôt, peut-être elle n'aurait pas eu la foi. J'ai dit, je dois vous parler de foi. Avez-vous remarqué que votre foi attend souvent de naître au moment où vous savez que vous ne pouvez plus rien faire? Et qu'en réalité, tu n'as pas encore la foi en Dieu parce que tu as toujours la foi en l'oncle. Tu n'as pas encore la foi en Dieu parce que tu as toujours la foi dans ton diplôme. Et donc quand tu regardes à tes diplômes, tu te dis de toutes les façons, avec ces diplômes, c'est sûr que je serai embauché. Et si tu es embauché, tu vas attribuer l'emploi, non pas à la grâce de Dieu, mais à tes diplômes. Donc Dieu s'organise pour qu'il t'ait laissé, il t'a laissé aller au bout de tes études. Tu reviens avec un master, une licence ou un doctorat. Et tu t'es dit de toutes les façons, avec ça je suis embauché. Tu n'es pas embauché. Et pendant que tu n'es pas embauché, tu perds de l'argent parce qu'il y a des dépenses. Et puis pendant que ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça tourne, à un moment, contre ce que le diable avait prévu, ta foi en Dieu commence à naître parce que tu te rends compte qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tes diplômes. Il y a un Dieu qui est au-dessus de ce qui t'emploie. Et donc au moment où le diable se dit c'est fini, je l'ai eu, elle va rester par terre, elle va rester par terre. C'est vrai, tu es tombé, mais la grâce fait que par terre, tu arrives à avoir une révélation. Pourquoi? Parce que maintenant tu souffres. Tu souffres de ne pas avoir d'emploi alors que tu as le diplôme. Et là, la foi monte. 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 Et puis un jour, sans que tu n'aies déposé un CV quelque part, ta foi. Je dis ta foi. Je dis ta foi. Je dis ta foi. Je dis ta foi. Ta foi. Ta foi. provoque Dieu. Et Dieu descend au travers de quelqu'un que tu ne connais pas. Et va bousculer quelqu'un que tu ne connais pas. Et le téléphone sonne. Et on te dit, on te cherche. Et tu dis, comment ça on me cherche? On te dit, tu as déposé le dossier tant. Et tu dis, je n'ai jamais déposé le dossier à cet endroit. Mais ce que tu ne te rends pas compte, c'est que ton dossier n'est pas allé, mais ta foi est allée. Je dis, ton dossier n'est pas parti, mais ta foi est partie. Et là où ta foi va, l'exaucement suit.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.